rappel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, l'antenne vous appartient comme tous les jours, RFI vous donne la parole et nous sommes vendredi, vous connaissez le principe du vendredi, hein, c'est la libre antenne, c'est vous qui décidez du contenu de l'émission, vous nous interpellez sur tous les sujets qui vous ont marqué cette semaine dans l'actualité française, africaine, internationale, vous savez que tous les sujets nous intéressent, même ceux qui ne font pas la une de la presse internationale, vous nous écoutez à l'étranger, eh bien appelez-nous, parlez-nous de l'actualité dans votre pays, vous nous rejoignez, vous lancez le débat, 33 9 693 693 70, 09 693 693 70 si vous êtes en France et vous postez vos commentaires, vos réflexions, vos coups de gueule ou coups de cœur hein, sur l'actualité de la semaine sur les réseaux sociaux et notamment sur notre page Facebook RFI Appel sur l'actualité. Mais d'abord, comme tous les matins, c'est votre rendez-vous avec la rédaction d'RFI pour répondre à vos questions. Daniel Valot est à mes côtés. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Journaliste au service international d'RFI. On a une question concernant Al-Qaïda et l'organisation de l'État islamique. C'est un dossier que vous suivez au service international des RFI. Youssouf, bonjour.
Et bonjour, Juan.
Vous êtes à Ouagadougou, au Burkina Faso. On vous écoute.
Oui, bonjour, Juan. Bonjour à tous les auditeurs des RFI. Moi, ma question concerne la relation entre État islamique et puis Al-Qaïda. Parce que j'ai appris tout récemment qu'un membre d'Al-Qaïda aurait critiqué l'exécution des pilotes jordaniens par l'État islamique. Il y a quel lien entre l'État islamique et Al-Qaïda?
Oui, c'est vrai que trois jours après l'exécution de son pilote par l'organisation État islamique, la Jordanie a invité sur un plateau de télévision dans l'émission la plus regardée du pays, le principal idéologue d'Al-Qaïda et Daniel Valot. Ce dernier a vivement critiqué hein, les djihadistes de l'État islamique. Ça en dit long finalement oui. Sur la rivalité, sur les relations entre ces deux organisations.
Oui, c'est pas vraiment une surprise en fait, hein, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, eh bien les relations entre l'organisation État islamique et Al-Qaïda, ces relations sont très mauvaises. Les deux organisations se considèrent comme des organisations rivales et même ennemies. Alors il y a eu par le passé des tentatives de médiation, de réconciliation, mais à ce jour et à notre connaissance en tout cas, toutes ces tentatives ont échoué. Les deux organisations restent aujourd'hui dans une posture de concurrence pour attirer les financements, pour attirer les combattants et également dans une posture d'hostilité, voire même d'affrontement direct. Exemple en Syrie où il y a eu des combats meurtriers entre le front al-Nusra qui est la branche d'Al-Qaïda en Syrie et l'organisation État islamique. Ces affrontements se sont déroulés pour l'essentiel l'année dernière en 2014 au bénéfice d'ailleurs de l'État islamique puisque il a réussi à déloger le front al-Nusra de son fief de la province de Deir ez-Zor.
Comment peut-on expliquer cette rivalité entre ces deux grandes mouvances de l'islamisme radical qui finalement elles ont quand même des points en commun?
Oui, alors pour comprendre un petit peu ce qui se passe entre Al-Qaïda et l'État islamique, faut revenir un petit peu en arrière et aux origines de l'État islamique qui est en réalité issu de la branche irakienne d'Al-Qaïda. La scission a eu lieu en 2013, lorsque le chef de l'État islamique, Abu Bakr al-Baghdadi, a tenté de prendre en Syrie le contrôle du front al-Nusra. Cette tentative a provoqué la rupture. Le chef d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri, a rejeté cette tentative d'OPA. Et il a déclaré que le front al-Nusra était le seul représentant d'Al-Qaïda en Syrie. On a basculé dès lors dans l'affrontement militaire, puisque comme je vous le disais, le front al-Nusra a pris les armes contre l'État islamique. Voilà de façon très résumée, très schématique, comment s'est déroulée la rupture entre l'État islamique et Al-Qaïda. Maintenant, on peut évoquer bien sûr le débat stratégique qui est à l'origine de ce divorce, au-delà des rivalités de personnes et de pouvoir. D'un côté, il y a Al-Qaïda qui prône un terrorisme décentralisé, en quelque sorte, un terrorisme qui vise d'abord, en premier lieu, à lutter contre l'Occident. Et c'est lorsque cette lutte sera terminée qu'Al-Qaïda considère qu'on pourra passer à la seconde phase du projet djihadiste, à savoir l'instauration d'un califat régi par la charia. De son côté, l'État islamique a une logique inverse. Il estime qu'il faut d'abord constituer cet État islamique, et c'est ce qu'il a fait à la fois en Syrie et en Irak.
Ouais, si je comprends bien, donc, Daniel Valot, ce sont donc deux visions stratégiques différentes qui s'affrontent, et en même temps, la finalité est la même.
Oui, d'ailleurs, on pourrait considérer que ces stratégies différentes sont d'une certaine façon complémentaires et qu'en réalité, Al-Qaïda pourrait bénéficier de la dynamique créée par son rival. D'ailleurs, c'est la crainte aujourd'hui des gouvernements occidentaux, voire d'anciens combattants de l'État islamique, de retour de ce califat, utiliser en Europe ou aux États-Unis les méthodes et les préceptes d'Al-Qaïda. Et à ce titre, les attentats du mois dernier en France sont malheureusement révélateurs, puisque les deux tueurs de Charlie Hebdo se sont réclamés d'Al-Qaïda, tandis que celui de l'hypercacher de Vincennes, lui, se réclamait de l'État islamique.
Effectivement. Merci Daniel Valo. Youssouf, on a répondu à votre question ?
Oui, c'est bon.
C'est bon. Bah, c'est bon, Daniel Valo. Merci d'être venu merci ce matin dans ce studio et bonne journée à Youssouf à Ouagadougou où il est 8h16. Autre question à la rédaction. Fortuna est avec nous. Bonjour.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Brazzaville et vous avez des questions concernant l'Argentine et cette affaire qui secoue la présidente argentine Cristina Kirchner, l'affaire Alberto Nisman.
Oui, effectivement, ça concerne Alberto Nisman. Nous savons que le procureur argentin a été retrouvé mort le 18 janvier dernier dans son domicile et dans ce même domicile. On a retrouvé un document dans lequel Alberto Nisman demandait l'arrestation ou la détention de la présidente Cristina Kirchner. Alors, ma question était de savoir où en est-on d'abord avec l'enquête sur la mort du procureur. Et la deuxième question, est-ce qu'il est possible pour la justice argentine de poursuivre la présidente argentine?
C'est vrai que l'opposition soupçonne le pouvoir en place d'avoir éliminé ce magistrat, retrouvé effectivement mort chez lui. Romain Lemaresquier, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour Fortuna
et
bonjour à tous.
Vous suivez ce dossier, Romain, pour le service international d'RFI. Alberto Nisman enquêtait sur l'attentat le plus meurtrier jamais survenu en Argentine. C'était en 1994, un attentat antisémite, 85 morts, 230 blessés. Et effectivement, comme le rappelait Fortuna, à l'instant, quelques jours avant sa mort, ce procureur accusait quand même la présidente argentine de couvrir les Iraniens qui seraient finalement les commanditaires de cette tuerie de 1994. Où en est-on aujourd'hui dans cette enquête?
Alors pour l'instant, il y a trois hypothèses qui sont envisagées par la procureure qui se charge de cette affaire, une certaine Viviana Fine. Alors la première hypothèse est celle du suicide, et selon la justice argentine, c'est la piste la plus crédible si l'on s'en tient aux premiers résultats d'analyse effectués non seulement sur les lieux du crime, mais également sur le corps d'Alberto Nisman, notamment la fameuse analyse de la trajectoire de la balle dans la tête. La deuxième hypothèse est celle de l'assassinat, une piste qui pour l'instant ne bénéficie d'aucun argument la justifiant, selon la procureure. Et la troisième hypothèse serait celle selon laquelle Alberto Nisman aurait été poussé au suicide, une sorte de suicide provoqué. Alors si on s'en tient au sondage, 70% des Argentins ne croient pas en la thèse du suicide. La majorité d'entre eux pencherait plutôt pour celle de l'assassinat ou celle du suicide provoqué. Enfin, à l'heure actuelle, une seule personne a été mise en examen dans cette affaire. Un informaticien, un certain Diego Lago Marcino, qui était un collaborateur du procureur Alberto Nisman et qui a prêté son arme au procureur la veille de sa mort. Mais cette mise en examen, je le précise, ne concerne que le prêt de l'arme, un acte qui est tout de même passible de 6 ans de prison en Argentine. Voilà pour ce que l'on sait officiellement sur cette enquête.
Officieusement, il se dit quoi, Romain ?
Alors, beaucoup de choses. D'après les proches du procureur, je parle là des collaborateurs, de sa famille également, de son ex-femme, Sandra Arroyo Salgado, qui est également juge, de nombreux indices les feraient pencher vers la thèse de l'assassinat ou du suicide provoqué, un peu comme la majorité des Argentins. Je peux vous citer par exemple les déclarations de son ex-femme, qu'elle aurait reçu quelques jours avant la mort de son ex-mari, la une d'un magazine avec la photo de son ex-mari. On y voyait, selon elle, le visage d'Alberto Nisman, qui était interviewé dans ce numéro, avec un petit cercle noir dessiné sur le front comme un impact de balle. Et puis selon Diego Lago Marcino, le collaborateur d'Alberto Nisman, le procureur craignait qu'un drame n'arrive, d'où le fameux prêt de l'arme avec laquelle il se serait suicidé ou il aurait été tué. Ensuite, si l'on s'en tient aux résultats d'analyse, aucune trace pour l'instant de poudre n'a été retrouvée sur les mains du procureur lors des deux analyses effectuées, alors qu'en cas de suicide, on retrouve généralement des traces. Et puis il y a également pas mal d'histoires concernant les portes et les caméras de surveillance de l'immeuble du procureur. Alors dans un premier temps, il n'était question que d'une seule porte d'accès à l'appartement, puis de deux, enfin de trois. Les caméras de surveillance soi-disant quadrillaient tous les couloirs et finalement on s'est rendu compte que certains endroits n'étaient pas du tout contrôlés. Donc ça, c'est qu'une seule partie des choses plutôt bizarres selon la presse argentine, car il y en a encore beaucoup d'autres.
Ouais, et puis il faut également parler, Romain Lemaresquier, de la réaction de la présidente Cristina Kirchner qu'Alberto Nisman souhaitait entendre, puisqu'il était convaincu, en tout cas il pensait qu'elle était coupable de couvrir les auteurs de cet attentat de 94.
Oui, une réaction qui a entraîné de très nombreuses critiques, puisque Cristina Kirchner n'a pas hésité hésité tout de suite à parler de suicide, avant de pencher ensuite pour la thèse du suicide provoqué. Alors, selon elle, c'est un obscur agent des renseignements argentins, un certain Jaime Stuiso, qui aurait incité le procureur à enquêter sur le rôle de la présidente, le rôle présumé hein, dans cette affaire. Selon Christina Kirchner, cet agent aurait fait en sorte que l'enquête d'Alberto Nisman aille en tout cas dans cette direction. Stuiso, selon la justice argentine, est la dernière personne à avoir parlé au procureur la veille de son décès. Cet agent des renseignements a été limogé par la présidente en décembre 2014. Il doit être entendu par la procureure très prochainement, mais on ne sait pas ni quand ni où. En tout cas, selon la presse argentine, hein, on s'attend à des déclarations fracassantes, même s'il faudra tout de même attendre que des fuites, que d'éventuelles fuites soient publiées dans la presse.
Voilà donc pour l'enquête. Fortuna nous demandait s'il était possible aujourd'hui que pour la justice argentine de mettre en examen la présidente Kirchner ou pas.
Alors juste une petite précision, c'est vrai que d'après les documents qui ont été retrouvés, hein, c'est dans une des poubelles de l'appartement du procureur, Alberto Nisman aurait envisagé de demander la détention de la présidente, mais c'est un document qui date de l'été 2014. Hein. Alors, à la question de Fortuna, peut-on mettre en examen le chef de l'État en Argentine ? Eh bien oui, même si ce n'est vraiment pas simple. Si Alberto Nisman avait finalement choisi de demander cette détention, sa requête aurait dû franchir trois étapes avant d'être appliquée. Elle aurait dû d'abord être validée par un juge, en l'occurrence son supérieur. Elle aurait ensuite dû suivre un chemin judiciaire qui aurait impliqué de très gros contretemps et de grosses complications. Et enfin, la dernière étape, c'est le Parlement qui aurait dû approuver à la majorité des deux tiers cette demande. Et il faut savoir que cette hypothèse est peu probable, étant donné que la coalition de Christina Kirchner détient la majorité dans les deux chambres. Alors voilà les raisons qui ont certainement finalement freiné Nisman dans sa démarche visant à demander la détention et l'interdiction du territoire de la sortie du territoire de la présidente, et qui l'ont poussé finalement à ne demander que son audition. Juste avant de nous quitter, Juan, oui. Une petite précision, je voudrais juste rajouter une chose. À l'appel des juges et des procureurs, une marche du silence a été convoquée pour le 18 février prochain, soit un mois jour pour jour après le décès du procureur. Un appel qui a provoqué une colère sans précédent dans le camp de Christina Kirchner, alors que l'opposition compte, elle, défiler aux côtés des représentants de la justice. Et on assiste en ce moment en Argentine à une politisation de cette affaire qui va encore plus compliquer
d'autant
cette enquête.
On est en année électorale.
Et en plus, on est en année électorale. Année électorale pour laquelle Christina Kirchner ne peut pas briguer de troisième mandat.
Effectivement. Merci beaucoup, Romain Lemaresqué. Fortuna, voilà, j'espère qu'on a répondu au mieux à vos deux questions. On vous souhaite une belle journée à Brazzaville. N'oubliez pas, dans 20 minutes maintenant, la Libre Antenne. Ce sont vos réactions, vos commentaires sur l'actualité de votre choix. 33 9 693 693 70. Ben, bonjour.
Oui, bonjour, Juan.
Vous nous appelez du Ghana. Vous êtes à Accra, dans la capitale. Vous avez une question concernant l'Ukraine.
Oui, j'ai une question concernant l'Ukraine. Depuis peu, je crois, il y a les républicains du Congrès américain qui sont en train de faire pression sur le président Obama afin qu'il envoie des armes aux forces loyalistes ukrainiennes. Et là, je crois, ça ne fait pas trop l'unanimité aussi. Ma question, c'est de savoir quels sont les arguments pour ou contre l'envoi des armes aux forces loyalistes ukrainiennes.
Faut-il armer l'Ukraine pour se défendre des séparatistes pro-russes qui arment et équipent lourdement, qui sont équipés lourdement, pardon, par Moscou? C'est vrai que ce débat est animé aux États-Unis. Thomas Negaroff est avec nous. Bonjour Thomas.
Bonjour Juan.
Vous êtes spécialiste des États-Unis, directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Ben disait à l'instant, les républicains militent en faveur de livraison d'armes à Kiev. Il n'y a pas que les républicains, il y a aussi des démocrates qui sont favorables.
Oui, il faudrait pas effectivement avoir une vision un peu simple des choses. Il y a aussi le président Obama qui hésite beaucoup. Donc, vous avez raison, des sénateurs aussi démocrates qui poussent dans ce sens. Donc c'est pas, il n'y a pas tous les républicains contre tous les démocrates, mais c'est vrai que c'est quand même une majorité dans le camp républicain qui sont plutôt favorables au fait d'armer les rebelles et qui sont au contraire extrêmement méfiants et réticents, voire même défiants par rapport aux récentes avancées, notamment à Minsk.
Effectivement, quels sont les arguments des uns et des autres ?
Alors les arguments des républicains et de ceux qui souhaitent armer les rebelles ukrainiens, c'est de dire qu'on ne peut accorder aucune confiance à Vladimir Poutine, que reculer aujourd'hui sur cette question-là, c'est risquer que demain, Vladimir Poutine avance à nouveau, et la référence historique qui est permanente dans la vie politique américaine, c'est Munich 1938, vous savez, où les Daladier et Chamberlain, les Français et les Anglais, avaient cédé finalement à Hitler sur les Sudètes, en espérant avoir garanti la paix mondiale, et en fait, on sait bien que quelques années plus tard, le conflit va se déclencher. Et donc, On parle beaucoup en ce moment aux États-Unis de Poutine comme un nouveau Hitler, que si on cède sur ces questions territoriales au nom des minorités russophones comme Hitler, au nom des minorités germanophones en 1938, eh bien, on retrouverait une sorte de conflit dans lequel nous serions très responsables parce que nous n'aurions pas su réagir à temps. Donc c'est la raison pour laquelle ces gens-là, qui sont très loin de l'Europe, eux, en revanche, contrairement à nous, et qui ont peu de relations économiques avec la Russie, peuvent se permettre d'avoir des discours aussi belliqueux.
Obama, en tout cas, lui, pour l'instant, il hésite, il privilégie la diplomatie. Si la diplomatie échoue, il passera à l'acte ou pas, Thomas Negaroff?
C'est difficile à envisager. Moi, j'ai pas l'impression qu'Obama ait véritablement envie de déclencher une guerre au plein cœur de l'Europe, surtout qu'il vient d'annoncer hier qu'il allait chercher à avoir une majorité au Congrès pour renforcer l'intervention américaine au cœur de l'État islamique. Je ne vois pas les États-Unis en ce moment s'engager même indirectement sur une série de conflits alors que précisément Barack Obama avait été élu pour se désengager. Non, il s'agit à mon avis de maintenir une pression très forte sur Vladimir Poutine. C'est encore de la diplomatie. En tout cas, en tant qu'Européen, moi je suis Européen, je suis pas très très loin de l'Ukraine. Finalement, en France, on n'est pas très loin. Je crois qu'on peut tous espérer que la situation se règle d'un point de vue diplomatique, au-delà de tout référence historique qui me semble un petit peu excessive.
Thomas Negaroff, spécialiste des États-Unis, merci d'avoir été avec nous. Ben, bonne journée à Accra. La dernière question de la semaine, c'est Dida qui nous la pose. Bonjour Dida.
Bonjour Gomez.
Vous êtes à Libreville, au Gabon, et vous avez justement une question concernant votre pays et la grève des fonctionnaires.
Exactement. Alors, je pose une question concernant la situation actuelle au Gabon, précisément une situation des travailleurs. Alors, le 31 décembre 2014, le président gabonais annonce une augmentation des salaires des fonctionnaires jusqu'en janvier 2015. Mais jusqu'à présent, rien de concret. D'où mes quelques questions.
Alors allez-y, posez déjà la première.
Oui, la première, c'est pourquoi cette augmentation n'est pas effective jusqu'à ce jour?
Ah, pourquoi la hausse des salaires des fonctionnaires qui a été promise donc par le président Ali Bongo n'est toujours pas effective? Bonjour Yves-Laurent Goma.
Bonjour Juan.
Merci d'être en direct avec nous de Libreville. Vous êtes le correspondant des RFI au Gabon. C'est vrai que les fonctionnaires sont en colère. D'ailleurs, depuis lundi, l'administration gabonaise, les établissements d'enseignants, mais aussi certains hôpitaux sont fortement perturbés à cause d'un mouvement de grève illimité. Comment se fait-il qu'Ali Bongo n'a pas tenu sa parole?
En effet, pour mieux comprendre la question, moi aussi, j'ai ressorti des tiroirs le message à la nation d'Ali Bongo. Il a effectivement dit ceci, sans attendre les conclusions des négociations en cours avec les syndicats et qui me seront présentés, j'ai engagé le gouvernement à mener des réformes visant à mettre en place à partir de janvier 2015 un nouveau système de rémunération de l'agent de l'État. Le thème engagé a suscité beaucoup d'espoir chez les fonctionnaires et les enseignants qui étaient en grève en ce moment-là pour réclamer des augmentations de salaire ont vite levé leur mouvement. Malheureusement, le 25 janvier, rien n'a été fait et ça a été une très grande déception pour les fonctionnaires. Alors pour répondre, Dida, pourquoi les salaires n'ont pas augmenté? C'est là la question que tout le monde se pose et il n'y a pas une véritable réponse car le Premier ministre chargé de concevoir le nouveau système est resté muet sur la question et pourtant c'est un brillant universitaire qui connaît les problèmes et qui parle très bien d'ailleurs. Revenons sur le contexte pour tenter de comprendre quelque chose. Lorsque le président Ali Bongo prononce le discours le 31 décembre, le pays connaît beaucoup de grèves, le front social est en ébullition. Il fait cette annonce qui calme le front social. Ensuite, il organise un séminaire gouvernemental pour examiner en profondeur les effets de la chute du baril de pétrole sur l'économie du pays. Au cours de ce séminaire, il se rend compte que la situation est catastrophique pour les finances publiques.
Ouais, c'est vrai que le pétrole, qui est la première ressource du pays, connaît en ce moment une baisse des cours. Hein. Tous les pays producteurs sont directement concernés. Et le Gabon vit en plus une période budgétaire difficile. On va continuer à en parler dans un instant, Yves-Laurent Goma, juste après le journal. Donc surtout, restez en ligne de Libreville. Dida, ne raccrochez pas. Et il se trouve que dans la Libre Antenne, vous êtes quelques-uns justement à souhaiter parler de cette grève qui secoue en ce moment la fonction publique gabonaise. Reste avec nous, on revient dans 10 minutes.